Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Deuxième épisode de cette, je sais plus quelième session, ça fait quand même 80 épisodes qu'on fait ça. Alors 80 divisé par 4, ça fait 20, donc 20e session déjà de Positron. Oh, incroyable. Je suis Patrick Béja, comme pendant les 20 sessions précédentes ou les 19 précédentes, et aujourd'hui, je suis avec, comme la dernière fois, Guillaume et Johan qui me rejoignent pour vous recommander des trucs super cool en 20 minutes. Et je dis donc bonjour à Johan et Guillaume. Comment ça va, les gars?
Bonjour Patrick, nous allons très bien.
Ça va bien.
On avait
je suis
dit...
très content parce que cette semaine, on s'est levé moins tôt que la semaine dernière.
On a commencé à 10h30 cette fois-ci.
C'est ça. C'est quand même beaucoup mieux. Deux semaines, hein. Attention, c'est toutes les deux semaines, Positron. C'est bien. Mais Guillaume a suivi le script au début qu'on avait écrit. Je vous avais dit, c'est pas croyable, impossible de vous faire suivre un simple script. Vous savez bien que les émissions ne fonctionnent pas si vous ne dites pas exactement ce que je veux. Ça marche jamais. Bon. Merci en tout cas d'être avec nous, chers auditeurs, et merci à Johan et Guillaume d'être là également. Et on va se lancer immédiatement dans trois recommandations. Et la première, c'est moi qui vais vous la proposer. Et c'est un jeu vidéo qui, un petit peu comme pour l'épisode précédent, est un jeu vidéo qui est différent des blockbusters, des triple A qu'on encense généralement, et qui, moi, m'a complètement subjugué par sa beauté et son ambiance. C'est un jeu qui s'appelle Inside, et qui est un jeu indépendant qui a reçu quand même pas mal d'honneurs cette année, que j'avais pas vu passer au début, mais qui finalement m'a intéressé quand on en a parlé pour les jeux de l'année. Et je me suis dit, quand même, c'est un jeu qui n'a l'air de rien, mais il est présenté pressenti pour le titre de jeu de l'année. Donc, il faudrait que je m'y intéresse un petit peu. Donc, tardivement dans l'année, je l'ai acheté et je m'y suis attelé. Et j'avoue que j'ai été complètement subjugué parce que c'est une beauté, une émotion qui passe par ce jeu. Et puis, c'est pas juste de la beauté, en fait. C'est aussi un petit peu de violence émotionnelle et de violence un petit peu physique, mais surtout émotionnelle. En fait, le principe du jeu, c'est très simple. C'est un scrolling horizontal, un enfant qui court vers la droite. C'est la société Playdead qui l'a développé, je le précise, parce qu'ils ont développé le jeu Limbo, qui avait déjà fait un petit peu de bruit il y a quelques années quand il était sorti sur mobile et sur console. Et celui-ci, c'est un peu Limbo en version perfectionnée, à tous les points de vue. Au niveau graphique, déjà Limbo était très particulier et très appréciable, mais aussi au niveau du gameplay, au niveau de la presque de la narration, ou en tout cas de l'ambiance qui s'en dégage. Et donc, c'est simplement un enfant qui court vers la droite et qui va devoir résoudre des petits puzzles simples pour continuer à avancer. Et au fur et à mesure, l'expérience dure peut-être 5 ou 6 heures, donc c'est pas super court, mais c'est pas très long non plus. Mais au fur et à mesure qu'il va avancer, on va voir dans ses interactions avec l'environnement, dans les décors, dans ce qui se passe. Par exemple, par moment, au début, il court dans une forêt Et il va être par moments poursuivi par des chiens qui, s'ils l'attrapent, bah, je vous raconte pas ce qui se passe, mais c'est pas agréable.
Les morts sont assez violentes quand même. Hein.
Ouais, ouais, c'est assez. Mais c'est ça qui jure en fait avec le reste de l'ambiance et mm-hmm. qui donne cette force émotionnelle qu'on n'aurait peut-être pas autrement. Donc on découvre à travers ces environnements qu'il traverse l'univers c'est un petit peu Big Brother quoi, c'est dystopique complètement l'univers dans lequel il évolue, la société dans laquelle il évolue et voilà, donc je vais pas en dire plus parce que je veux pas non plus trop spoiler le propos, même si le propos est vraiment en filigrane, c'est plus des ressentis qui ressortent du jeu. Je dirais que c'est peut-être quand même pour les fans, c'est pas un jeu que je recommanderais à absolument tout le monde, mais c'est quand même un jeu qui est unique et très appréciable. Je pense que si vous jouez aux jeux vidéo uniquement pour jouer à FIFA ou Call of Duty, c'est peut-être pas votre trip. Si vous aimez le média jeu vidéo ou que vous aimez même les films indépendants qui ont quelque chose à vous transmettre au niveau émotion, c'est un jeu qui pourrait vous plaire. Donc voilà, ça s'appelle Inside de Playdead. C'est relativement bon marché. Il y a même une démo sur PC et sur console. Donc et je l'ai pas faite, mais j'imagine que la démo suffit presque à vous faire passer cette ambiance parce que on le ressent assez vite. Dès 20 minutes de jeu, on comprend ce que veut faire passer le jeu. Je vous entendais acquiesser.
Je l'ai fait récemment et effectivement, ouais, c'était une grosse claque et la fin est absolument magistrale. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre d'œuvre, que ce soit des films ou des jeux ou peut-être des livres où le jeu, une fois fini, va te mettre dans un mode de réflexion où tu vas essayer de comprendre et où tu vas devoir essayer de te remémorer un peu tout ce que tu as fait pour essayer de comprendre le sens de ce que tu viens de vivre. Et du coup, bah, moi, je suis arrivé vite sur Internet pour aller voir ce qu'en disent les autres. Il y a pas mal de discussions hyper intéressantes sur la signification de tout ça. Et enfin, moi, c'est aussi un des jeux très forts de cette année, clairement.
Ouais. La manière dont tu dis ça, je crois que ça peut aussi être interprété comme un gros what the fuck où ça n'explique rien et où
c'est juste que ça fait partie des œuvres qui n'explicitent pas tout, comme tu le disais, c'est pas c'est pas un Call of Duty où tout le scénario t'est expliqué par le méchant pendant un mois qui t'explique son plan de A à Z, etc. Non, là c'est t'as un point de vue qui est celui de l'enfant et pour comprendre l'univers, il va falloir décrypter un peu ce que tu as vu dans. En fait, c'est une narration environnementale, donc en fait tu comprends ce qui se passe par l'environnement, par ce qui se passe autour de toi. C'est très très malin.
Mais ouais, Guillaume, je pense pas que ce soit forcément nécessaire de tout comprendre, que tout soit expliqué. Je pense que le what the fuck, le fait qu'on comprenne absolument pas et que ce soit très étrange, le côté étrange participe justement à ce qui est chouette dans ce jeu, à ce qui rend mal à l'aise. Moi j'aime bien.
Ouais, non, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi je suis parti aussi sur Internet pour essayer de comprendre et je crois comme un petit peu comme vous deux finalement et comme Guillaume que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire et c'est aussi intéressant de ne pas tout comprendre forcément d'une certaine manière donc. Donc voilà, ça s'appelle
les développeurs. Motus et Bouche Cousue, ils ne révèlent rien sur leur
truc. C'est évident. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas.
Je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même, ouais. ok, donc ça s'appelle Inside, comme je le disais. Johan, que nous proposes-tu aujourd'hui?
Alors moi, aujourd'hui, je vais vous proposer ce qu'on appelle un deck builder. Donc un deck builder, c'est un genre de jeu de plateau. Qui est en fait un genre assez proche de ce qu'on peut retrouver comme mécanique dans des jeux comme Magic ou Hearthstone, qui sont des jeux de cartes à collectionner. Donc dans ces jeux-là, en gros, on accumule des cartes, on fabrique des jeux, on crée ce qu'on appelle des decks et on va jouer contre d'autres joueurs avec. Et donc en fait, les jeux de plateau deck builder se proposent en fait de rendre ludique cette phase où tu vas construire ton jeu. Donc là, en l'occurrence, le jeu en question, c'est Marvel Legendary. Donc c'est un deck builder coopératif sur l'univers de Marvel. Donc la partie se présente comme ça. On a un super vilain qui change à chaque partie, qui a un plan machiavélique à résoudre. ce plan change aussi à chaque partie. Et donc nous, on représente le shield.
Genre,
on
va devoir tuer le colonel Moutarde dans la cuisine. Ou c'est
alors
ça,
c'est
le
plus
plan
par exemple Magneto qui veut dérober une banque ou
dans la cuisine
ou faire invoquer des aliens au-dessus de la ville en installant des portails partout.
D'accord,
enfin,
ce genre de voilà. Trucs.
Okay. Magneto, c'est un joueur ou
Non, c'est un super vilain. Donc, en fait, il y a plusieurs super vilains. Il y a Magneto.
Oui, mais est-ce que
Loki.
Quelqu'un le joue, en fait? C'est ça la question.
Non, personne le joue. C'est le jeu et les joueurs vont se battre contre lui.
Ok.
Et donc, je disais, c'est que les joueurs représentent le Shield et vont devoir aller recruter des super-héros pour affronter le grand méchant. Donc, le grand méchant gagne si jamais il arrive à résoudre son plan machiavélique. Et les héros gagnent s'ils arrivent à battre le super vilain avant cet événement-là. Donc en fait, tous les joueurs commencent avec un très petit deck de quelques cartes qui sont en fait des agents recruteurs du Shield. On a un headquarter, j'ai plus le nom français.
Quartier général.
Un quartier général, merci. Dans lequel se trouve, on pose des cartes de super-héros qui ont un certain coût de recrutement. Et donc voilà, donc avec ton jeu, tu vas pouvoir recruter des héros, les ajouter à ton deck. Et donc quand ton deck s'épuise, tu remélanges et tu recommences. Et donc au fil de la partie, ton deck va devenir de plus en plus conséquent avec les héros que tu as réussi à recruter. Et donc il y a toute une histoire de synergie. Donc il y a pas mal de héros disponibles. Hein. Ils ont chacun leur spécificité propre. Donc par exemple on a Captain America qui est plus fort en fonction du nombre de d'autres types de héros que tu as joué. On a donc Iron Man, Wolverine. Il y en a plein. Et à chaque partie, si tu veux, tu en sélectionnes que 5 pour ta partie. Donc ça permet avec le super vilain et avec le plan machiavélique qui change aussi à chaque partie de varier énormément les différentes parties que tu fais.
Les plaisirs. C'est pas un truc où tu vas garder ton deck d'une partie sur l'autre. Tu le reconstruis
fois. Voilà. Tu le reconstruis de zéro à chaque fois et ça fait partie pour moi des choses que j'aime beaucoup dans ce type de jeu, donc les deck builders. C'est-à-dire que moi qui suis très fan de Hearthstone ou Magic, j'ai beaucoup de mal à faire venir des amis dans ce genre de jeu là parce que ils vont arriver, moi j'ai déjà mon jeu super fort, ouais. Ils vont commencer déjà, ils connaissent pas bien les règles, etc. Donc c'est pas évident. Et là donc on recommence de zéro à chaque fois et en plus c'est coopératif, donc du coup tu vas pas antagoniser tes amis. Je connais d'autres jeux, il y a un autre deck builder qui est assez populaire qui s'appelle Dominion, qui est compétitif, que j'aime beaucoup aussi, mais j'ai beaucoup de mal à faire venir des amis parce que on va lancer une partie, je vais les massacrer et ils voudront plus jouer après. C'est grosso modo. Et donc avec ce jeu là j'ai beaucoup
et bien sûr tu peux pas les laisser gagner parce que ça se fait pas, je veux dire.
Je peux les laisser gagner mais ils le
non,
voient
mais non,
ils
tu
veulent,
peux pas,
ils veulent
tu
jouer.
Peux pas
Et d'accord. Du coup, voilà. Donc, c'est un jeu qui est vraiment sympathique, qui se joue de 1 à 5 joueurs. Donc, on peut même jouer tout seul. Donc, quand j'ai eu la boîte, j'ai pu jouer tout seul un petit peu. C'est pas aussi d'accord. Sympa, mais c'est quand même sympathique.
J'allais dire, c'est un peu triste quand même de jouer tout seul à un jeu de plateau, mais.
je me suis fait une session, ça tout seul, les Netflix. Ça marche très très bien.
D'accord.
Il y a énormément d'extensions au jeu de base, donc en fait le jeu se renouvelle assez. Déjà le jeu de base se renouvelle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de situations différentes à rencontrer, et en plus après on peut rajouter les Civil War, les Secret Wars, enfin, tous les trucs de l'univers d'accord. Marvel.
En extension.
Le point négatif que je retire de ça, c'est qu'il n'est pas localisé en France, donc c'est un jeu qui est forcément d'import. Donc ça fait que c'est des boîtes qui sont un peu chères en France, donc on le trouve autour de 50 € dans les boutiques. C'est un peu cher.
Et puis c'est en anglais.
C'est complètement en anglais. Alors moi je le recommande à quelqu'un qui parle un peu anglais, qui est plutôt fan de jeux de cartes. Comme ça il pourra jouer tout seul, apprendre le jeu
et de
être capable. Ouais, ou de comics, oui, vaut mieux être un peu sensibilisé. Moi, je suis pas forcément fan de comics, j'aime bien les super-héros en général, mais Marvel, je connais les films, quoi. Je suis pas du tout un.
Oui, bon, fan de super-héros.
Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, donc je le conseille à quelqu'un qui sera capable ensuite d'expliquer à ses amis de manière simple comment fonctionne le jeu.
D'accord.
Pour pouvoir enchaîner des parties rapidement, quoi. Voilà.
Ok, super. Eh ben écoute, Marvel Legendary, un jeu de plateau plutôt pour les fans, donc. Et enfin, Guillaume, j'ai vu dans les notes de l'émission ce dont tu allais parler, et je me suis complètement comment dire, je me
consterné.
Suis non pas consterné j'étais enfin oui d'une certaine manière consterné de ne pas en avoir parlé moi-même voilà. plus tôt, et j'arrivais pas à croire que en 82 épisodes j'ai pas parlé de cette série. Je me suis flagellé moi-même de t'avoir laissé l'occasion de me voler cette série. Je me rattrape dans l'épisode prochain où j'ai une autre série que j'adore dont je vais pouvoir parler, mais vas-y. Parle-nous de cette série que tu m'as dérobée honteusement.
Tu vas certainement pouvoir m'assister alors. Donc, la série en question, c'est bien sûr The Wire. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien ? En fait, c'est une série TV hein, qui est passée sur HBO il y a assez longtemps maintenant. C'est entre 2002 et 2008. Donc ça se passe dans une Amérique avant les écrans plats, avant les smartphones, avant les GSM. Enfin, il y a un peu de GSM, mais ça démarre dans cette époque-là, écran cathodique, ligne fixe, etc. Et qu'est-ce que c'est ? Ça parle de la criminalité dans la ville de Baltimore aux États-Unis. Alors quand je dis la criminalité, c'est autant les enquêtes sur les meurtres que sur la contrebande, que sur la corruption des politiciens, etc. Mais avec avant tout quand même un focus sur le trafic de drogue et en particulier d'héroïne dans le quartier ouest à Baltimore. Mais donc, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que quand on dit série qui suit la criminalité, on penserait qu'on va suivre juste des policiers. Mais ici, on suit presque autant les criminels, les dealers de drogue, les assassins, que les policiers, en fait. Et donc, il y a vraiment un aspect, je dirais, il essaye le plus possible d'être objectif, d'être neutre, de la part du réalisateur, qui suit donc autant les policiers que les criminels. Et donc, par exemple, dans la saison 1, on suit une unité spéciale qui est chargée d'arrêter celui qui est le grand méchant, celui qui, entre guillemets, celui qui est à la tête du réseau de distribution d'héroïne. Et donc, on suit leur enquête petit à petit, et on regarde arriver jusqu'au stade où ils arrivent à mettre les coupables sous écoute. Donc, c'est pour ça que la série s'appelle The Wire. C'est parce que quand on met quelqu'un sur écoute, on dit qu'on va... comment est-ce qu'on dit
Oui, bah c'est une écoute, en fait, c'est The Wire. En fait, je crois même qu'en français, elle s'appelle sur écoute, la série.
Tout à fait.
Mais on met le titre anglais parce que merde, c'est quand même important rester.
Mais de toute façon,
surtout pour cette série.
C'est impossible de la regarder en VF parce que, enfin, déjà, ne jamais regarder quelque chose en VF. Mais ensuite, il y a un vrai travail au niveau, un vrai aspect authentique sur le vocabulaire des protagonistes qui parlent un anglais déchiré, une mauvaise grammaire, une mauvaise conjugaison. Ils parlent vraiment très très un anglais très très moche, très très torturé.
Il y a un argot.
Voilà,
je dirais, tu dis effectivement ne jamais regarder quelque chose en VF. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je regarde toujours tout en VO parce que même si je comprends qu'il y ait des gens et parfois le travail de la version française est excellent, hein, je dis pas le contraire, mais ça contribue tellement à l'ambiance d'une œuvre d'avoir la version originale que moi j'ai du mal à m'en départir juste pour le confort. Bon, quand on parle anglais généralement ça va, mais il faut avouer que sur celle-ci, même si on parle anglais, il faut s'accrocher, quoi. Pour comprendre ce qu'ils disent, parfois, il faut vraiment les sous-titres. Et c'est pas évident. Mais du coup, effectivement, si on n'écoute pas en version originale, on perd, je sais pas, bien 30% de l'attrait de la série, quoi.
Complètement, complètement. Et donc, tu disais, on peut pas, il faut se concentrer même si on est anglophone. Et donc, c'est complètement ça. C'est une série qu'on peut pas regarder pendant qu'on mange son bol de céréales ou pendant qu'on joue à World of Warcraft sur l'autre écran. Il faut être concentré à 100% sur la série parce que c'est très compliqué. C'est très, très, très cérébral. Et donc, quand on pense à une série policière, on s'imagine typiquement les experts Las Vegas avec leur super costard, leur super bureau, et ils tapent le problème dans l'ordinateur et puis il y a la solution qui apparaît, boum, badaboum. Ici, c'est pas du tout ça. C'est une série qui se veut profondément réaliste en termes, je dirais, de style, en termes d'intrigue. C'est-à-dire que quand on observe la police faire son travail, Ben, ils passent énormément de temps à faire de la paperasse, à bosser dans des bureaux mal éclairés, à s'engueuler, à faire. Il y a une grande importance qui est accordée à la notion de chain of command, à la notion de hiérarchie et des conflits internes dans les départements de police. Donc c'est
si
vraiment
ça,
pas du tout.
Si ça vous paraît abrupt et même peut-être chiant comme explication. Le génie de cette série, c'est que ça vous rend tout ça. Ouais, pardon, tu veux. Vas-y, fini.
Non, mais tu peux terminer. Enfin, bah, attends, je vais peut-être juste clôturer. Donc, c'est pas du tout un truc hollywoodien. Ça se veut très réaliste. Il n'y a pas des scènes d'action. Pendant les 5 saisons, il n'y a jamais de la musique. Il n'y a jamais un ralenti. Il n'y a jamais un plan où le réalisateur fait un peu son malin. Il y a vraiment de la part. Du réalisateur, mais il s'annule, il fait une abnégation, il fait pas du tout le malin et il se met complètement au service de l'intrigue et la série repose mais vraiment sur le script qui est excellent et sur les acteurs dont on peut parler vite fait. Dans le casting, il y a par exemple Idris Elba qui aujourd'hui maintenant on en parle pour devenir le prochain James Bond quoi, mais à l'époque en 2002 il n'était pas connu à ce point-là. On a Michael B. Jordan qui était dans le dernier Rocky. On a Lance Reddick et on a Aidan Gillen qui est dans Game of Thrones maintenant. Comment il s'appelle encore, le Dominic West. On a plein de super acteurs qui font un boulot incroyable et ça participe vraiment à cet aspect réaliste. En fait, concrètement, quand on a fini de regarder The Wire et que on voit les acteurs dans une autre série, on se dit pas hey, tiens c'est l'acteur qui a joué McNulty dans The Wire. On se dit hey, mais c'est McNulty, qu'est-ce qu'il fait là? parce qu'il y a une telle immersion, on est tellement immergé dans la ville de Baltimore, dans l'univers de The Wire, que les personnages nous paraissent mais vraiment vrais. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure?
En fait, ce que je voulais dire, c'est que la description est complètement juste, la description que tu fais. Mais certaines personnes pourraient se dire que ça a l'air chiant d'écrit comme ça, mais c'est le génie de David Simon qui était journaliste avant d'écrire The Wire et qui connaît bien cet univers et qui a créé une série mais qui est là encore, peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour rentrer dedans. Le premier épisode, vous allez regarder ça, vous allez vous dire, oh, c'est chiant.
Ouais. Je crois que ça m'a mis 3 épisodes avant de comprendre un peu.
C'est ça. Exactement. Et au bout de 2-3 épisodes. Vas-y, Yohann.
Ouais. En termes d'épisodes, est-ce qu'on est sur vraiment quelque chose de continu, d'intrigue globale, ou est-ce qu'il y a chaque épisode, il va y avoir quelque chose.
Non, tu peux pas
zapper un épisode et puis regarder le suivant.
Bah, disons que c'est effectivement une c'est pas le méchant de l'épisode qui va être résolu. Non, c'est une intrigue qui se suit et franchement tu parlais des personnages, Guillaume, il y a des personnages parmi les plus mémorables de l'histoire des séries télé. C'est enfin Omar par exemple c'est le personnage que quand quelqu'un parle de The Wire, il y a toujours un des gens du groupe qui a vu la série pour dire hey, Omar, it's Omar coming. Omar coming, yo, it's Omar, yo, et tu revis exactement le truc dans tes os, quoi. C'est franchement, je suis désespéré que tu m'aies volé le fait de parler de la série. je veux dire, c'est vraiment pour dire, je comprends pas comment moi en 80 épisodes j'ai pas pu en parler. Je devais être convaincu que j'en avais déjà parlé parce que pour moi c'est peut-être la meilleure série que j'ai jamais vue.
Mais moi j'ai aucun doute là-dessus. Hein.
Ouais.
Et donc là j'imagine toutes les fois où tu devais enregistrer un positron et que tu te demandais ah là là mais qu'est-ce que je vais chercher, je trouve rien. C'est la page blanche et t'aurais pu penser à ça.
Ouais, non mais c'est clair. Et alors peut-être la meilleure série que j'ai jamais vue, très certainement dans le top 3. Enfin c'est une série extraordinaire qui est encore une fois un petit peu abrupte au début, mais qui vous récompense avec un plaisir et une émotion que n'offre qu'offre rarement ce genre de média. Alors la deuxième saison est un petit peu plus faible peut-être, mais je crois qu'il y en a 5 en tout.
Ça se débat. Ouais. Je peux peut-être vite rajouter un truc, c'est que donc quand on dit comme ça là, c'est des policiers qui courent après des dealers de drogue, on comprend pas forcément là où réside l'intérêt de l'intrigue, mais ce qu'il y a, c'est que tout ça sert de toile de fond à David Simon, qui est donc, comme tu disais, un ancien journaliste au Baltimore Sun, pour ramener plein de, un peu comme pour Kingdom Come il y a 2 semaines, pour mettre sous le projecteur plein de vrais problématiques, plein de vrais sujets de société, comme bien sûr évidemment la war on drugs, la guerre contre la drogue et ses premières victimes. Et alors bien sûr la surveillance avec l'histoire de mise sur écoute, la ségrégation raciale, etc. Et par exemple ma saison préférée, parce qu'en fait il y a à peu près une thématique par saison, et ma saison préférée parmi toutes, c'est la 4, où on suit des enfants noirs qui vont à l'école et on entend des choses comme par exemple moi je m'en fous toutes ces conneries, j'ai pas envie d'étudier, je vais me casser et je vais aller vendre de la drogue. Et donc on a vraiment on a sous le projecteur vraiment ces situations dont on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe dans les mauvais quartiers américains de ces populations pauvres, et donc ça fait vraiment réfléchir. Par exemple Edward Snowden, quand il a fait ses révélations, il est parti en Russie et puis il a dit maintenant j'ai un peu de temps, je vais regarder The Wire. Et évidemment, le sujet de la surveillance, c'est un sujet que lui connaît très bien et c'est pour ça qu'il le regardait. Et puis, c'était très marrant de voir un an après sur Twitter, David Simon et Edward Snowden se parler et échanger et débattre sur le sujet de la surveillance en faisant des petites blagues sur la série. Parce que la série vraiment expose plein de cas intéressants, plein de situations qui sont pertinentes pour ces sujets de discussion.
Il y a un exemple qui revient souvent, c'est le fait que dans The Wire, qui était donc très réaliste, et c'est début des années 2000, les juges donnaient des mandats pour écouter une conversation téléphonique espionnée. Ouais. Et si jamais ils se rendaient compte au bout de 30, si les policiers se rendaient compte au bout de 30 secondes que les sujets n'avaient pas à voir avec sujet de leur enquête, c'est-à-dire si deux dealers de drogue dont on savait que c'était des dealers de drogue s'appelaient pour parler du film qu'ils avaient vu hier soir, eh ben les policiers devaient raccrocher et n'avaient pas le droit de continuer à écouter. C'était à ce point, enfin vous voyez la surveillance, c'était bon bref, c'est on va s'arrêter là parce que je pourrais parler de The Wire pendant des jours, mais c'est une série et vraiment hein. Je dirais que c'est une série peut-être pour les fans, parce que c'est pas une série qui va plaire à tout le monde.
C'est pas accessible, hein. c'est vraiment compliqué.
Mais moi, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que quand j'étais aux États-Unis, j'étais allé louer la saison 1 de The Wire. Donc j'ai regardé le premier DVD que j'ai trouvé, donc j'ai vu, ça doit être 3 ou 4 épisodes, j'ai trouvé vraiment magistral, les dialogues sont incroyables, etc. Tout ce que vous avez dit, et malheureusement le deuxième DVD était celui de la saison 4 dans le boîtier et je me suis arrêté là, et donc je vais courir essayer de rattraper ce retard là.
Mais en plus t'as la chance puisqu'il est sorti
est sorti en Blu-ray il y a quelques temps, et du coup la question c'est, est-ce qu'il faut le regarder en HD ou est-ce qu'il faut le regarder en 4 tiers dans les conditions de l'époque.
Ouais,
4 tiers, c'est toujours un peu dur quand même. Mais...
Ben, moi, je l'ai regardé en 4 tiers parce que c'était pas encore sorti. Mais toi aussi, d'ailleurs, j'imagine, non, que c'était pas encore sorti quand tu l'as vu. Alors, il y a effectivement les gens qui prennent parti qu'il faut le regarder comme à l'époque et que c'est vraiment une série télé et que donc il faut regarder comme si c'était sur une télé en 4 tiers, etc. Je pense qu'on s'en fout et que tu.
Ouais,
tu
moi je crois que c'est pas si important que ça. C'est pas ça qui va vous faire aimer ou détester la série, quoi. Donc.
Si vous la détestez, mais vous ne le dites pas.
Bien sûr. Si vous la détestez, vous dites j'ai pas eu le temps de la regarder. Je parle pas anglais, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas possible de ne pas aimer cette série. C'est impossible.
Clairement.
Bon, donc voilà, ça s'appelle The Wire et vous l'avez compris, on ne saurait trop vous le recommander. Et on vous répète ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il s'agissait de Inside, un jeu vidéo plutôt pour les fans. Marvel Legendary, un jeu de plateau bientôt, là encore, plutôt pour les fans. Et enfin, The Wire, une série télé, encore plutôt pour les fans. Parmi tout ça, j'espère bien qu'il y aura un truc qui vous plaira. J'imagine que ça sera le cas. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ah oui, non, quand même. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet si on en veut plus Vas-y, Johan.
Donc alors, moi, on peut me retrouver sur Twitter à @y-pathy. Ça sera dans les notes de l'émission. Et bien sûr, sur le Slack pour tous les patriotes.
Exactement. Pour tous les patriotes, niveau Slack.
Voilà.
Niveau Slack.
3$ par mois.
C'est vrai qu'on s'amuse, on s'amuse beaucoup sur le Slack. Si vous y avez accès et que vous n'y venez pas, si vous êtes patriote du rendez-vous tech à ce niveau, venez nous rejoindre. C'est vrai qu'on on discute tout le temps. Il y a tout le temps des gens avec qui s'engueuler sur le fait que oui ou non, The Wire est la meilleure série de l'histoire. Guillaume.
Ouais, donc pour moi, c'est sur Twitter, @geeko86, sur le Slack de Patrick, comme on l'a dit. Je vais mettre en avant aussi mon application QuickLyric, quicklyric.be, pour avoir les paroles de la musique que vous écoutez sur Android instantanément. Et ça marche super bien et c'est super cool, donc téléchargez-la.
Et elle arrive quand à peu près sur iOS?
Alors, oulala, mais là tu me relances pour une demi-heure au moins. Ouais. Donc, il n'y a pas de date pour iOS parce que c'est le genre de truc où on ne peut jamais prédire exactement quand ce sera terminé.
Non, mais à peu près.
J'ai pas envie de mettre la pression. 2 ans.
D'accord, ok, très bien. Et bien, dans seulement 2 ans sur iOS.
Non, merci. Je peux pas faire les prédictions. D'accord. Et sur le store, sur le Google Play, elle arrive dans quelques mois.
Elle n'est pas déjà disponible sur le Play Store.
Mais alors, on en parlera dans Upload un jour. Hein, mais il y a des histoires d'ayant droit pour les paroles, les trucs que je viens de négocier, etc. Le code est prêt, donc vous pouvez le télécharger sur quicklyric.be. Mais pour que ce soit sur le store, il y a encore un peu de paperasse à faire.
D'accord. Bon, écoute, bon courage pour tout ça. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook. Et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Alors, normalement, les nouveaux logos sont déjà sur les différentes émissions. Je ne sais pas si ça sera le cas pour Positron encore. Oui, il y a... Alors, donc, allez jeter un coup d'œil. C'est le travail admirable de Jérôme Kainborg qui a refait tous les logos. Et je pense que vous les apprécierez. Donc vous pouvez voir ça pour toutes les émissions d'ailleurs sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour encore des trucs cool à vous recommander en 20 minutes. Ciao à tous.
À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.